Nous allons parler aujourd'hui de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame est bien vieille. On la verra peut-être enterrer cependant Paris qu'elle a vu naître. Gérard de Nerval. D'histoire. En 1160, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, décidait de construire une cathédrale à la mesure de sa ville, le plus grand édifice religieux de la chrétienté pour la ville qui était alors la plus peuplée d'Europe. Dans l'île de la Cité, à la place d'une vieille basilique romane, des milliers de carriers, de maçons, de sculpteurs, de charpentiers, de peintres, de tailleurs de pierre et de verriers ont construit en 2 siècles un chef-d'œuvre de l'art gothique. Capable d'accueillir au Moyen-Âge plus de 7000 fidèles, il a reçu depuis des millions de visiteurs, pèlerins ou touristes, venus du bout du monde, à l'endroit où convergent toutes les routes de France, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, qui, plus que n'importe quel autre monument, symbolise depuis des siècles la ville qu'il a vue naître.
Qu'est-ce que c'est que Paris en l'an 1240? C'est Notre-Dame. Et 700 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Paris? C'est toujours Notre-Dame, avec tout le reste aussi bien sûr et qui l'entoure. Mais il n'empêche que toutes les routes de France partent du parvis de Notre-Dame.
Kilomètre zéro.
Oui, kilomètre zéro. Mais disons aussi que tout y aboutisse. Et que ce point de départ peut être un point de ralliement. Et même encore un point final.
Claude Gauvard et Yvonne-Hélène Lemaresquier, bonjour. Vous êtes toutes les deux des spécialistes du Moyen-Âge. Claude Gauvard, vous venez d'écrire aux éditions du Chêne un livre magnifique sur Notre-Dame. Est-ce qu'on peut dire, comme Sacha Guitry, que l'on vient d'entendre, que Notre-Dame c'est Paris et que Paris c'est Notre-Dame?
Paris et Notre-Dame, c'est une grande histoire d'amour, mais qui n'a pas toujours été simple, comme les histoires d'amour. C'est un symbole, effectivement, avant de Paris, avant la Tour Eiffel. Mais ce qu'il faut noter tout de suite, c'est que l'amour entre les Parisiens et la cathédrale a été fait aussi de difficultés, de conflits. Il y avait dans la ville aussi, et dans la cité même, dans l'île de la Cité, un autre pôle qui était le palais, avec la chapelle, la Sainte Chapelle, que nous voyons encore de nos jours. Et l'union au Moyen-Âge n'a pas toujours été facile.
Yvonne et Hélène de Maresquier, est-ce que vous aussi vous pensez que Notre-Dame, c'est Paris?
Oui, je suis agréé à cette formule.
Guitry, hein, c'est le point zéro, hein, c'est de là que part tout.
Voilà.
Le monde, de toute façon.
Et je crois que moi, je me déplacerai un peu vers les étrangers. Il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a sur le parvis tôt le matin, et toutes les personnes qu'on peut croiser et qui viennent voir Notre-Dame.
Alors vous avez participé à un numéro spécial des Cahiers de Sciences et Vie qui est passionnant parce que non seulement il y est question de la construction de Notre-Dame, mais aussi de tout un quartier. Alors il faut rappeler quel quartier de la Cité. Il faut rappeler que Notre-Dame est donc décidée, la construction de Notre-Dame est décidée en 1160 par un tout nouveau évêque de Paris qui s'appelait Maurice de Sully, je l'ai dit. À quoi correspondait cette volonté? Parce qu'après tout, dans l'île de la Cité, il y avait déjà une basilique romane importante qui datait de plusieurs siècles, déjà depuis le 4e siècle.
Oui, donc nous avons là effectivement une volonté de rénovation. La basilique dont vous parlez avait déjà été rénovée, le portail avait été refait au milieu du 12e siècle, mais ça n'a pas paru suffisant, pas paru assez beau. Au même moment, il faut penser que le grand homme qui a été suggère à Saint-Denis avait fait construire la basilique rénovée, bien sûr aussi au 19e siècle que nous connaissons de nos jours, et il y a une sorte de compétition en quelque sorte qui s'établit entre ces grands prélats, et Maurice de Sully se dit que il faut quelque chose qui, un bâtiment, qui réponde aussi aux attentes intellectuelles du moment. Au même moment, il y avait énormément d'intellectuels à Paris. On pense près de 10 000 étudiants au XIIIe siècle. Vous voyez des choses qui sont quand même importantes, qui pèsent d'un grand poids. Pour concevoir un bâtiment, il fallait que le bâtiment réponde à l'enseignement qui était fait de la théologie, dont la science était la reine de l'Église et la reine de Paris en même temps.
Et puis qui répondent à une population qui augmente de manière spectaculaire à cette époque-là. Au XIIe siècle, Paris devient la première ville d'Europe. 200 000 habitants, évidemment aujourd'hui, ouais, ça fait pas grand-chose, mais à l'époque c'était la première ville d'Europe.
C'était la première ville d'Europe. Pour donner une idée, au même moment, on pense qu'à Florence, il y avait une centaine de 100 000 habitants à peu près. Donc c'est une très grande ville, et l'évêque... Parce qu'on peut se demander comment a été construite, par quels moyens financiers cette cathédrale a été construite. Or, l'évêque et les chanoines qui l'entourent sont parmi les plus riches seigneurs du royaume de France. Ils ont des biens dans le bassin parisien, des biens fonciers, et qui rapportent énormément. Parce que c'est l'époque des grands défrichements, c'est l'époque de la grande expansion des campagnes françaises.
Alors, Yvonne et Hélène Maresquier, vous rappelez aussi que ce projet de Maurice de Sully, c'est pas seulement de construire une cathédrale, c'est tout un quartier qui va être bouleversé. En fait, c'est un projet urbanistique, c'est une ville nouvelle qu'on va voir apparaître sur l'île de la Cité.
Alors, avec la cathédrale, il y a le palais épiscopal et l'hôtel Dieu. Ce qui est assez remarquable, c'est que l'enclos canonial ne sera pas modifié pour ne pas fâcher les chanoines qui étaient très puissants. Et d'autre part, il y aura une voie d'accès, la rue Neuve Notre-Dame, qui sera percée pour donner accès à partir de la grande voie nord-sud de Paris, pour donner accès à la cathédrale. La grande voie suit le cardo romain avec le petit pont, la rue du marché Palu, la rue de la Juiverie, la rue de la Lanterne, et les planches au début, les planches de Mibré qui relieront la cité à la rive droite. Le pont Notre-Dame n'étant construit que au début du XVe siècle, 1413.
Et tout ça autour donc de la cathédrale qui n'a guère changé depuis, d'ailleurs la première pierre qui a été posée en 1163, jusqu'à cette visite commentée par le père Leclerc au micro d'Alexandre Hérault pour les lieux de mémoire de France Culture en 1997.
Merci. Nous sommes dans la cathédrale. Vous êtes venu pour visiter un monument. Quand vous sortirez d'ici, vous aurez rencontré quelqu'un. Parce que la cathédrale, c'est quelqu'un. C'est une entité irradiante. La parfaite unité, il n'y a aucune retouche. Ils ont posé la première pierre là-bas, tout en haut, en 1163. En 1250, ils étaient au sommet des tours. C'est une des toutes premières expériences de l'époque où le roman a basculé dans le gothique. Donc c'était l'époque de la folie, le pari, le défi. Créer le sentiment d'éternité à partir de la voûte solennelle.
Ensemble, Gilles Binchois, Sederunt Principes, qui est un chant religieux qu'on a pu entendre d'ailleurs dans Notre-Dame de l'époque au XIIe siècle, puisqu'il a été composé par Perrotin en 1199, à l'époque donc où Notre-Dame sortait de terre. C'est un défi, disait le père Leclerc. En quoi est-ce un défi, Claude Gauvard? Une folie même, il disait.
C'est un défi et une folie, parce que jusqu'alors, aucune cathédrale gothique, au sens propre du terme, entier du terme, n'avait pu être construite. Alors, il faut quand même donner quelques éléments de dimension. 127 mètres de long, 40 mètres de large, une hauteur sous voûte de 33 mètres. Ce sont des éléments, des prouesses techniques. Et nous n'avons pour toutes ces prouesses aucun nom d'architecte. Pour le démarrage de la cathédrale, jusqu'au XIIIe siècle, quand on voit apparaître, alors là, des noms connus, comme Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, etc. Et il y a là, vous voyez, quelque chose d'assez émouvant, dans la mesure où nous savons qu'il y a eu des architectes. Il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas de conceptualisation du projet. Mais nous n'avons pas, comme par exemple pour Reims, Villard de Haunecourt, dans la période suivante. Donc c'est une prouesse technique qui permet de passer donc du roman au gothique sans balbutiement cette fois, avec la croisée d'ogives.
Oui, c'est ça, il faut rappeler, pour, voilà, la on dit toujours le gothique et voilà. Le roman. Le roman se termine, le gothique apparaît. Le gothique, ce sont d'immenses vitraux, c'est beaucoup plus de lumière grâce à des méthodes de construction.
Méthode de construction et volonté. Alors, méthode de construction, donc, avec la croisée d'ogives, les arcs boutants qui viennent pour épauler les murs et qui permettent donc de monter et d'ouvrir aussi les murs pour faire entrer la lumière. Et encore, comme il s'agit quand même d'une des premières cathédrales gothiques, la lumière n'est pas encore très très présente à Notre-Dame, surtout dans le premier projet. Et pourtant, on essaye là aussi de suivre l'idée du pseudo Denis l'Aréopagite qui était le grand penseur, c'était un grand penseur qui était suivi dans les cours, si vous voulez, de la faculté des arts, et il racontait comment la lumière devait, depuis le ciel, descendre jusque sur le fidèle pour l'imprégner et opérer sa rédemption.
5500 mètres carrés au sol, 7000 fidèles, c'était le plus grand édifice religieux du XIIe siècle. Il faut pas rappeler que Saint-Pierre de Rome n'existait pas encore. Alors un édifice immense qui a mobilisé des quantités de corporations, des peintres, je l'ai dit au début, parce que on oublie souvent aujourd'hui, quand on voit les cathédrales d'aujourd'hui, que les cathédrales étaient peintes.
Alors, on a encore des traces de peinture dans les morceaux qui ont été trouvés dans les fouilles archéologiques et qui sont conservées au Musée National du Moyen-Âge.
Alors un endroit qui n'était pas seulement destiné à être un lieu de culte réservé aux chanoines ou aux fidèles.
Au Moyen-Âge, c'était la maison du peuple. La cathédrale était enserrée par des tas de petites maisons. Là, à la base de la Rosace Nord, là-bas, il y avait tous les lits des enfants trouvés, avec les nourrices et toutes les grandes dames de la société qui venaient se renseigner sur les petits, savoir si elle pourrait participer à l'éducation d'un enfant, etc. C'est un brouhaha permanent. Les prostituées n'étaient pas étrangères à la cathédrale. C'est vous dire que c'était ici la vie.
Marchons la vie, marchons à Bidiano.
La charité. Mais que font donc ceux-là qui vont se rompre le cou? La foudre a endommagé la toiture.
Notre-Dame les protège.
La charité. Aujourd'hui, tout est permis. Pas sur le parvis. On a tous les droits aujourd'hui.
Quasi Monod, Notre-Dame, tu nous casses les oreilles, à nous et à nos
femmes. Et c'est un extrait de Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, d'après bien sûr Victor Hugo, qui nous montre aussi bien le film d'ailleurs que le livre de Victor Hugo, un parvis très animé devant Notre-Dame. Le parvis était très petit, vous le rappelez, Claude Gauvard, mais il s'y passait des tas de choses. On y voit même, en tout cas dans le roman ou dans le livre, s'y produire des mystères. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire ces pièces de théâtre du Moyen-Âge, quoi.
Ces pièces de théâtre du Moyen-Âge n'étaient pas représentées sur le parvis de Notre-Dame. Ce sont les derniers acquis de la recherche qui l'ont démontré. Non, c'est probablement une invention du 19e siècle. D'abord, le parvis était très petit. Or, les mystères...
Oui, 40 mètres de profondeur, rien à voir avec celui d'aujourd'hui.
C'est très très peu. Et les mystères occupent plusieurs centaines de personnages. Donc... même si, effectivement, des mystères ont été écrits par des chanoines de Notre-Dame, comme Arnoul Gréban, par exemple, au XVe siècle, son mystère n'a pas été représenté sur le parvis.
Alors, il y avait des pèlerinages, il y avait des cérémonies religieuses, il y avait aussi, Yvan-Hélène Lemaresquier, vous le rappelez dans ce numéro de Science et Vie, des foires, une foire au lard, par exemple, sur le parvis de Notre-Dame.
La foire au lard avait lieu le jeudi absolu, c'est-à-dire le jeudi saint. Alors, il faut bien s'imaginer ces foires. C'était des ça n'avait aucun, ça n'avait pas du tout le caractère des marchés que nous avons aujourd'hui, comme à Sarlat ou des choses comme ça. C'était en fait sous la responsabilité, sous la juridiction des chanoines, et c'était un petit peu, plutôt un espace un peu plus libre que ce que pouvait connaître dans le reste de l'année. L'approvisionnement de Paris.
Alors, il y a aussi un bâtiment dans lequel, dont parlent longuement les cahiers de sciences et vie, c'est un bâtiment qui n'est plus au même endroit aujourd'hui, c'est un des plus grands hôpitaux de France, sans doute, et peut-être même d'Europe. C'était l'Hôtel Dieu qui était sur la Seine. Hein. Maintenant, il a traversé le Parvis. Il était sur la Seine à l'époque. Alors là, il y avait aussi, donc, dans la population qu'on voyait devant Notre-Dame, évidemment, des malades, des gens qui venaient les visiter.
Alors, l'Hôtel Dieu était un établissement moderne pour l'époque par rapport aux autres établissements hospitaliers et d'assistance. Il faisait partie du projet de Maurice de Sully et il a remplacé un ancien Hôtel Dieu qui a été détruit avant la fin du XVe siècle quand on a fait la façade de Notre-Dame. C'était un établissement immense pour l'époque, avec ses 5 salles et 303 lits. Puisqu'on mettait, on couchait plusieurs malades par lit, on peut penser que l'Hôtel-Dieu pouvait accueillir plusieurs centaines de patients. Dans les cas d'épidémie, il en accueillait encore plus.
Alors il y avait aussi des quantités de ruelles dans ce quartier. On en cite des rues commerçantes très très animées. Hein, il y avait la principale, la rue Neuve Notre-Dame, qui donnait pile sur le parvis, en face de la grande porte de Notre-Dame. Il y avait aussi, alors réservé surtout à des libraires, il y avait la rue de la Juiverie, hein, c'est l'actuelle, à peu près l'actuelle rue de la Cité, où étaient les boulangers. D'ailleurs, on l'appelait la rue de la Juiverie, mais c'est le moment précis précisément où le roi de France, Philippe Auguste, a chassé les juifs de Paris, Claude Gauvard, à ce moment-là.
Oui, il les a chassés, mais ils sont revenus. Oui. C'est-à-dire qu'il les a autorisés à revenir, et il y a eu plusieurs, ainsi, chasses aux juifs au cours du XIIIe siècle et au XIVe siècle, jusqu'à leur expulsion définitive qui date de 1394. Mais jusque-là, il y avait effectivement des juifs, et le problème justement est de savoir quel était le rapport des évêques et des chanoines avec les juifs alentour. Il a probablement été meilleur que ce que nous pouvons imaginer.
Alors cela dit, on a pris leur synagogue pour en faire une église, l'église Marie-Madeleine, je crois. C'est curieux d'ailleurs, parce qu'il y a Notre-Dame sur l'île de la Cité, qui est quand même pas si grande que ça. Il y avait même 13 églises en plus, dont, elle viendra après Notre-Dame, dont la Sainte-Chapelle.
Oui, il y avait donc...
Notre-Dame ne suffisait pas.
Non, mais Notre-Dame était à la fois cathédrale et église paroissiale. Remarquons que l'évêque, c'est un évêque, hein, et non pas l'archevêque. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que Paris devienne un archevêché. On a pris soin de dépendre de l'archevêché de Sens, vous voyez, pour limiter le pouvoir de ces grands prélats parisiens qui étaient extrêmement puissants. Et le roi, probablement, devait veiller à ce qu'ils ne deviennent pas trop puissants. Donc il n'a pas dû beaucoup favoriser l'élection de Notre-Dame en archevêché.
Il y avait aussi des paroissiennes pas très catholiques, Yvonne Hélène Lemaresquier, vous les citez dans les cahiers de science et vie aussi. Il y avait une rue, la rue Glatigny, où se trouvaient ce que vous appelez des fillettes, qui n'étaient plus tout à fait des jeunes filles. Hein.
Non.
Bon, disons-le, alors, c'était des prostituées, quoi.
Tout à fait. Donc, la rue de Glatigny, dans les textes de l'époque, s'appelait la rue du Val d'Amour. C'était, alors, il faut voir que la prostitution était cantonnée dans cette rue par les ordonnances royales de Saint-Louis, les ordonnances royales de 1256 à peu près. Alors, c'était un métier extrêmement réglementé, puisque les fillettes ou femmes dissolues, enfin il y a tout un vocabulaire très très riche pour les
fillettes, c'est charmant.
Voilà.
Mais elles étaient tolérées par l'Église, non?
Oui, alors ça c'était un débat ancien justement, puisque il y avait eu un débat. Elle s'était proposée pour offrir une verrière à Notre-Dame, finalement, les théologiens avaient accepté ce don que l'évêque, en définitive, avait refusé pour ne pas avoir l'air de les soutenir.
Alors Notre-Dame, en tout cas, elle est achevée quand à peu près? Quand peut-on dire que l'essentiel des plans de Maurice de Sully ont été achevés?
Écoutez, si on pense que l'intérieur du jubé et le mur de clôture a été achevé vers 1370, mais ça n'était pas dans le plan initial, cela. Même au Moyen-Âge, si vous voulez, la construction a une histoire. Et mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait à peu près 2 siècles.
Alors ensuite, Notre-Dame n'a guère changé, pas beaucoup en tout cas. Elle a vécu à peu près tous les grands moments de l'histoire de Paris, depuis la convocation des premiers états généraux par Philippe le Bel en 1302, jusqu'à une scène incroyable qui s'y est déroulée en 1944, quand Notre-Dame accueillait le général de Gaulle le 26 août, au moment de la libération de Paris.
Le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers visiteurs, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Ce bande de salauds qui tirent depuis déjà 2 ou 3 jours sur les toits, profanant ainsi ce lieu sacré, cette cathédrale de Paris, cette cathédrale de France, qui a vu tant de tédiums de gloire se dérouler, entre autres celui de 1914-1918, où elle a reçu le général Foch, qui était victorieux comme l'est aujourd'hui le général de Gaulle, et qui rentre en vainqueur, en libérateur, dans Paris, capitale de la France, et dans Notre-Dame, cathédrale de France.
Des coups de feu à Notre-Dame, alors ils n'ont fait que des blessés, heureusement, mais alors en 800 ans, je suppose que Notre-Dame n'a pas entendu beaucoup de coups de feu ou des événements de ce genre, mais elle en a vécu beaucoup. Vous me rappeliez hors micro, Claude Gauvard, que des Tédéum, ça existait depuis le Moyen-Âge.
Tout à fait, 12 août 1450, Tédéum ordonné par Charles VII à la suite de sa victoire contre les Anglais à Formigny, en Normandie. Donc, ensuite, il avait demandé même à ce que tous les ans, cette commémoration ait lieu. Il y a eu quelques Tédéum commémoratifs à Notre-Dame, mais il y a eu aussi tant d'autres événements.
Bah oui, il y a eu le mariage du futur Henri IV avec Marguerite de Navarre. Il n'était pas dans l'église parce qu'il était protestant, voilà. Donc elle s'est mariée toute seule avec son mari. Il y a eu les cloches fondues à l'époque de la Révolution. Bien sûr, il n'était plus question d'y célébrer le culte. Il a été rétabli par Napoléon, qui s'est fait sacrer à Notre-Dame. Alors, il y a eu quand même un événement dont il faut parler, parce qu'il a été très contesté, c'est la restauration sous le Second Empire, la restauration de Notre-Dame par Viollet-le-Duc. On dit que ça a fait beaucoup de tort à la cathédrale, Claude Gauvard.
Non, je pense que Viollet-le-Duc, moi je le réhabilite dans mon livre de façon peut-être excessive, je ne sais pas.
Mais qu'est-ce qu'il a changé?
Et écoutez, il a d'abord sauvé le bâtiment. Alors il l'a sauvé sur intervention officiel, hein, on lui avait demandé de le faire, mais il avait 30 ans. Nous sommes, si vous voulez, en 1843, il remporte avec l'Assu le concours destiné à restaurer Notre-Dame.
Mais qu'est-ce qu'il a changé?
Est-ce
qu'il a respecté le plan initial?
Il a respecté le plan initial. Le plan lui-même, oui. Mais il a restauré l'église en ce sens, dans le sens d'une cathédrale idéale. C'est-à-dire qu'il y a ajouté effectivement des fleuritures. Il a surtout reconstitué les statues qui avaient été décapitées et mises à terre par la Révolution française. Il a aussi restauré, ce qu'on oublie, les corrections, on va dire, pour être gentil, qui avaient été apportées au XVIIe siècle. On avait, par exemple, vous voyez, dans le portail central, on avait coupé le jugement dernier pour faire entrer le dé royal.
Donc il a respecté Notre-Dame, oui. Il a même sauvé Notre-Dame.
Notre-Dame,
c'est ce que vous dites.
Et il en a fait ce qu'il appelle une cathédrale idéale.
Alors, c'est pas le cas de son contemporain, pratiquement, qui est tout simplement le baron Haussmann, qui a, lui, complètement bouleversé, fait quasiment disparaître l'île de la Cité telle qu'elle existait au Moyen-Âge, et dont il ne reste que la Conciergerie, la Sainte-Chapelle et Notre-Dame, bien sûr, que visitent tous les ans des centaines de milliers de touristes, les oreilles collées sur leur audioguide.
Il faut aborder Notre-Dame en suivant le fil de la Seine et découvrir d'abord, dans son décor de verdure et d'eau, l'ensemble de ce grand vaisseau, si stable dans les remous de la ville. Cette façade méridionale offerte au fleuve est un enchantement.
Fantastic. It's really fantastic. Unbelievable. I think everybody here is happy. Are we from Taiwan?
Quand je suis près de Notre-Dame, de regarder et de me dire waouh. Je sais pas, c'est comme la mer de la France, donc une maman qui est ronde et qui est grande et qui sort, qui est large, accueillante, belle, il y a le soleil, il y a tout. C'est un endroit de rêve, c'est du chaleur, c'est super.
Rolling in Paris, the city awakes to the bells of Notre-Dame. Fisherman fishes, the baker man bakes, to the bells of Notre Dame, to the big bells as loud as the thunder, to the little bells.
C'est merveilleux, hein, l'enthousiasme de ces touristes, Claude Gauvard, devant Notre-Dame.
Oui, mais c'est le même pour nous. Ouais. C'est-à-dire que vous voyez, pour moi, mais aussi peut-être pour tous les petits-enfants, les pierres à Notre-Dame parlent. Les gargouilles qui avaient été descendues ont été remontées. Et il y a un mélange, si vous voulez, de grotesque et d'idéal. C'est comme ça que je termine mon avant-propos en disant que ça respecte tellement l'esprit du Moyen-Âge, qui est un souci de vivre dans l'instant et un amour profond d'éternité.
Il y a plus que ça, il y a quand même une beauté intacte, mais pour combien de temps? Je citais Gérard de Nerval, qu'on trouve au début de votre livre d'ailleurs. Notre-Dame est bien vieille, on la verra peut-être enterrée cependant en Paris qu'elle a vu naître. Mais est-ce que c'est pas Paris qui l'enterrera un jour?
Peut-être, c'est un bâtiment fragile.
Yvan-Hélène de Maresquier, non?
Je n'imagine pas Paris sans Notre-Dame.
Parce qu'il reste plus grand chose autour d'elle. Je citais la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, qui est un morceau de l'ancien palais royal, et puis Notre-Dame. S'il y a un quartier dont on n'a pas parlé, qui était juste derrière, qui était relativement respecté, qui est le quartier des Chanoines.
Voilà, et dans le quartier des Chanoines, il y a une maison qui a été reconstituée au XIXe siècle, la maison des chantres, du chantre.
Donc Notre-Dame, ça restera indéfiniment.
Je pense que c'est vraiment un bâtiment fragile. Pour l'avoir vu de près, grâce à ce livre, j'ai pu visiter des endroits où on voit effectivement le calcaire se dégrader. Et il faut faire très attention. Et nous devons être, je crois, les pouvoirs publics doivent être très attentifs à préserver ce monument qui est quand même à la fois symbolique et tellement beau. Vous l'avez dit, on ne peut que le répéter. Parce que c'est peut-être pas la plus belle cathédrale gothique, mais c'est probablement le site gothique le plus beau.
Merci Claude Gauvard et Yvan-Hélène Maresquier. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du numéro que les Cahiers de Science et Vie consacrent ce mois-ci à Notre-Dame de Paris et auquel vous avez collaboré, Yvan-Hélène Maresquier. Quant à vous, Claude Gauvard, vous êtes l'auteur, avec Joël Léther, d'un très beau livre, magnifiquement illustré, Notre-Dame de Paris, cathédrale médiévale, publié aux éditions du Chêne. À lire également Quand les cathédrales étaient peintes, d'Alain Erland Brandenburg, aux éditions Découverte Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, disponible en DVD aux éditions Studio Canal, et Si Paris nous était compté de Sacha Guitry, édité par René Château Vidéo, ainsi que des extraits de l'émission Lieu de mémoire consacrée à Notre-Dame par Alexandre Hérault, diffusée sur France Culture le 30 janvier 1997. Enfin, je signale que le Centre des Monuments Nationaux organise la deuxième édition de Contes et Histoires dans 13 monuments nationaux de Paris et d'Île-de-France du 26 décembre au 7 janvier prochain, et propose aussi un voyage sur les traces des personnages historiques et mythiques, notamment dans les tours de Notre-Dame, sur les pas de Victor Hugo. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Ludovic Asselot, Ronan Mahé, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Oliva, et à notre réalisatrice Anne Kobilac.